Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
C'est une nouvelle phase qui commence pour l'IOR, l'Institut pour les œuvres de religion, surnommé la Banque du Vatican. Après l'opération Transparence, les réformes, l'Institut va changer d'équipe dirigeante. Nous en parlerons dès le début de ce magazine. Les Indonésiens aux urnes ce mercredi, au terme d'une campagne électorale marquée par des coups bas et des intimidations qui suscitent l'inquiétude parmi les minorités et pas seulement. Dans un message, les évêques catholiques appellent à sauvegarder la démocratie et la liberté religieuse. Dans cette émission, nous parlerons également de la situation toujours très tendue au Proche-Orient, des remous provoqués par la prise de position du pape François contre la mafia, et vous entendrez le président de la Conférence des évêques de la République démocratique du Congo. Après le lourd travail de management accompli par l'équipe sortante, c'est un nouveau cycle de réformes qui va commencer pour l'IOR au Vatican, avec une nouvelle équipe travaillant sous une nouvelle structure de gouvernance. Ce mercredi à midi, le nouveau cadre économique du Saint-Siège sera présenté en conférence de presse, en présence entre autres du cardinal Georges Pell, préfet du secrétariat pour l'économie, ainsi que du président sortant de l'IOR, l'industriel allemand Ernst von Freiberg, et du financier français Jean-Baptiste de Françu, dont le nom circule dans la presse depuis plusieurs jours comme possible successeur du président de l'IOR. Des changements importants devraient être annoncés dans l'appareil économico-financier du Saint-Siège et de la Cité du Vatican. Alors que le bilan 2013 de l'IOR a été publié ce mardi, le communiqué annonce que de grandes mutations sont en cours pour le Saint-Siège et pas seulement pour l'IOR, selon le cardinal Pell. Avec le soutien du pape François et du Conseil des cardinaux, on procède actuellement à la création de structures plus simples et performantes pour ceux qui servent la mission de l'Église catholique. Mais le processus de réforme coûte cher. Ainsi, l'IOR a vu l'an dernier son bénéfice net s'effondrer. Complément d'information avec Xavier Sartre.
Avec la publication des résultats pour l'année 2013, se clôt également la phase 1 des réformes pour rendre l'IOR plus transparent et conforme à la réglementation internationale. La banque a ainsi fermé environ 3000 comptes, dont 2600 qui n'étaient plus utilisés depuis longtemps, les 400 restants n'entrant plus dans la liste des catégories admises par l'établissement. En outre, 359 autres comptes, pour un montant de 183 millions d'euros, sont en voie de fermeture. Par ailleurs, l'IOR a bloqué 1329 comptes individuels et 762 comptes institutionnels. Ces différentes mesures expliquent en grande partie pourquoi le bénéfice net a autant fondu en un an. La clôture de ces comptes a entraîné un départ de fonds de 44 millions d'euros. La banque a décidé que dorénavant, la détention de comptes ne serait possible que pour les institutions catholiques, les membres du clergé, les employés ou les anciens employés du Vatican pour le versement des salaires et des retraites, ainsi que les ambassades et les diplomates accrédités près le Saint-Siège. Cette revue complète des comptes achevée, l'IOR peut passer à la phase 2 qui doit permettre d'assurer la continuité du service dans un contexte de réforme plus large des structures économiques et administratives du Saint-Siège. Une nouvelle étape qui s'accomplira en harmonie avec le secrétariat pour l'économie et la commission de surveillance de l'IOR des cardinaux.
Et à la veille de l'annonce officielle de son départ, le président de l'IOR, Ernest von Freiberg, a affirmé avoir appliqué pendant son mandat une politique de tolérance zéro à l'égard de toutes les activités suspectes. Les réformes ont été menées dans cet esprit, a-t-il dit. Ce processus a été douloureux mais absolument nécessaire. Désormais, l'IOR sera exclusivement consacré au service de la mission de l'Église catholique. Le pape François avait promis l'enfer aux mafieux. Ses paroles ont eu un impact considérable dans la péninsule italienne et selon la presse, c'est désormais la guerre entre l'Église italienne et les clans mafieux. Le 21 juin, en Calabre, le Saint-Père avait en effet affirmé que les mafieux n'étaient pas en communion avec Dieu et qu'ils étaient donc excommuniés. Jean-Baptiste Cocagne.
Dimanche, au lendemain de la visite du pape François dans leur région, 200 détenus du pénitencier de haute sécurité de Larino ont ostensiblement déserté la messe présidée par l'évêque du lieu. « Puisque nous ne pouvons plus communier, inutile d'y assister », ont-ils fait savoir à l'aumônier de leur maison d'arrêt. Mais de là à parler de révolte ou de mutinerie comme le fait la presse italienne, l'aumônier n'est pas d'accord. Il y avait beaucoup de monde à la messe et plusieurs détenus sont venus lui parler, signe que les paroles du souverain pontife ont tapé dans le mille. Trois jours plus tôt, une procession à la Vierge dans un village calabrais avait fait un détour et une halte devant la maison d'un boss de la criminalité organisée, en signe de déférence à son égard. Un geste comme un véritable défi aux mots d'excommunication du pape François, selon l'évêque local, qui a annoncé des mesures énergiques. Connu pour son engagement contre la mafia, Monseigneur Brigantini, l'auteur des méditations du dernier chemin de croix au Colisée, a choisi de répondre à ces incidents en organisant une rencontre de réflexion sur le drame de l'excommunication et la force de la miséricorde. L'archevêque de Campobasso a rappelé qu'en visitant justement une autre prison du Molise samedi dernier, le pape François a souligné que si nous le cherchons, Dieu nous accueille et nous pardonne. Ce qui s'est passé ces jours derniers montre en tous les cas que les paroles du pape remuent les consciences.
La situation est toujours très tendue au Proche-Orient, entre Israéliens et Palestiniens. L'atmosphère est explosive. Malgré les appels à la vengeance qui viennent de certaines voix dans chaque camp, les autorités tentent de tout faire pour éviter une nouvelle escalade de violence. Mais derrière les mots, c'est toute une réalité qu'il faut changer. Une vraie culture de paix à bâtir, en rupture avec le passé. Comme nous l'explique le père David Neuhaus, vicaire patriarcal pour la communauté catholique hébréophone d'Israël.
Nous vivons dans une tension très très forte. Et le discours de nos chefs n'a pas beaucoup aidé. Et nous ne savons pas comment et quand ça sera terminé. Bien sûr, c'est une violence qui continue depuis des décennies. Mais cette expression récente est très triste parce que, bien sûr, encore une fois, c'est les jeunes qui tombent victimes et les anciens qui ne sont pas prêts à bouger dans leur position politique. Qui nie les droits de l'autre.
Justement, Père Neuhaus, les jeunes en particulier, les jeunes que vous côtoyez, dans quel état d'esprit sont-ils vraiment? Est-ce qu'il y a une possibilité de parler, malgré les souffrances, des signes que cette jeunesse a une forme de sagesse quoi, pour regarder vers l'avenir?
Je rencontre aussi la jeunesse qui est contre toute cette violence-là. Il y avait des manifestations contre la violence qui ont rassemblé des Arabes et des Juifs ensemble, des expressions de ceux qui veulent un avenir qui est un peu différent de notre présent. Pour dire la vérité, moi, je n'accuse pas les jeunes. Hein. J'accuse nos chefs politiques qui ne sont pas capables à développer un langage qui ouvre l'avenir à autre chose. Le cycle de violence, les revendications, les accusations qui ne cessent pas. Ah, des deux côtés, chaque côté pense qu'il est la victime unique et que l'autre côté est l'agresseur et celui qui est violent. Là, il y a un manque de responsabilité. Ah, et aussi, je pense, un peu un manque de volonté de changer notre réalité pour que les jeunes puissent expérimenter autre chose que ce qu'ils connaissent, qui est uniquement la violence, les soupçons mutuels, la haine, et cela est la responsabilité de nos chefs.
Comment l'Église arrive-t-elle à parler dans cet antagonisme qui semble indépassable?
Je pense qu'ici, il y a trois défis peut-être pour l'Église. Hein. Le premier, cela est déjà en action, c'est d'exprimer notre proximité à ceux qui souffrent, particulièrement aux familles qui ont perdu leur chair, hein, leur fils. Et là, bien sûr, nous étions très, très touchés aussi par les condoléances qui ont été envoyées par le Saint-Père. La deuxième chose, qui est très, très important, et je pense que là aussi, nous sommes partis sur cette route. Et cela est chercher un langage qui dit vrai notre situation. Chercher un langage qui ne connaît pas les mots ennemis, les accusations, les soupçons, mais un langage qui embrasse tout et cherche un autre avenir. Nous sommes en train de travailler un document qui peut être l'expression aussi de cet élément. Un langage qui cherche à dire avec une intention de paix notre situation actuelle. La troisième chose est de prendre position avec ceux qui sont pour les valeurs qui sont chères à l'Église. Cela ne veut pas dire chercher le côté juif ou chercher le côté palestinien, chercher le côté israélien ou le côté arabe. Cela est chercher là où sont les gens, juifs et arabes, qui veulent autre chose. Notre réalité actuelle, notre présent. La chose à faire est de regarder celui qui est en face et l'appeler mon frère, parce que nous sommes tous hein, les enfants de Dieu.
Le père David Neuhaus, interrogé par Olivier Bonnel. À l'approche de la célébration le 13 juillet du dimanche de la mer, le Saint-Siège attire l'attention dans un message sur les difficultés que les marins affrontent chaque jour. Plus de 90% des marchandises au niveau mondial sont transportées par bateau. Ce secteur emploie environ 1,2 million de marins de toutes races, nationalités et religions. Or, leurs conditions de travail épuisantes et dangereuses sont largement ignorées, regrette le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Hélène Destombes.
Rien à voir avec l'image romantique et aventurière qu'en donnent le cinéma et la littérature. En 2012, selon l'Organisation Maritime Internationale, plus de 1000 marins sont morts dans des naufrages et collisions maritimes, sans oublier la piraterie qui a pris des formes nouvelles. Le texte fait état aussi de cas d'abandon de marins dans les ports étrangers, sans salaire, nourriture ni protection. Il met l'accent sur la brièveté des escales, la cohabitation dans un périmètre limité, sur la solitude et l'isolement des marins loin de leur famille. Depuis plus de 90 ans, l'Église offre son assistance pastorale aux gens de la mer grâce à l'œuvre de l'apostolat de la mer. Chaque année, des milliers de marins sont accueillis dans les ports, dans les centres Stella Maris, où ils peuvent se détendre et contacter leur famille grâce aux divers moyens de communication mis à leur disposition. Par ailleurs, des volontaires visitent quotidiennement les marins sur les bateaux et dans les hôpitaux et sont prêts à secourir ceux qui sont abandonnés dans des ports étrangers. Enfin, les aumôniers offrent leur assistance spirituelle, en particulier dans les moments de difficulté et de crise. Mais surtout, l'apostolat de la mer n'hésite pas à dénoncer les abus et les injustices et à interpeller l'industrie maritime et les gouvernements pour que soient respectées les conventions internationales.
Ce mercredi, 187 millions d'Indonésiens sont appelés à choisir leur président pour la troisième fois depuis la chute du président Suharto en 98 et la démocratisation du régime. Mais le climat est tendu et, comme le souligne l'agence Église d'Asie, l'argument religieux est très présent, surtout sur les réseaux sociaux, alors que les campagnes de diffamation vont bon train. Les évêques catholiques ont appelé les fidèles à porter leur choix sur les candidats qui ont le désir de servir les autres plutôt que de se servir eux-mêmes. Ils les ont encouragés à voter de manière responsable en ayant à l'esprit l'importance de préserver les principes de la démocratie et de la justice sociale et de promouvoir la tolérance entre les différents groupes ethnico-religieux. Les évêques suggèrent aux catholiques d'étudier de près le parcours des candidats et leur portefeuille professionnel. Ils mettent en garde contre le risque de fraudes électorales. L'Indonésie, jeune démocratie, attend beaucoup de cette élection. La crise économique et la corruption rampante ont quelque peu lassé les Indonésiens qui espèrent un vrai renouvellement de leurs élites et une valorisation des nombreux atouts dont dispose l'archipel. Écoutez Éric Frécon, il est coordinateur de l'Observatoire sur l'Asie du Sud-Est à l'Asia Centre.
Oh, les enjeux de l'élection, c'est tourner la page du double mandat de Susilo Bambang Yudhoyono, le précédent président. Un mandat qui se termine dans une ambiance de frustration, c'est-à-dire on attendait beaucoup de ce président, qui était un officier, on attendait un pouvoir fort de sa part, et finalement, tant les résultats économiques que le leadership qu'on espérait de sa part, rien n'a été abouti. L'économie est plutôt en berne ces temps-ci, on érigeait l'Indonésie au rang de futur BRICS, de pays émergents, mais l'économie réelle, notamment tout ce qui tourne autour de la valeur de la monnaie, par exemple, et puis les prises de décision qu'on espérait de sa part, notamment en termes parfois de tolérance religieuse, n'ont pas été prises. Donc beaucoup de déceptions. Et l'idée aujourd'hui, donc, c'est de tourner la page, d'attendre et d'espérer un nouveau leader. Et puis aussi, à plus long terme, si on dézoome davantage, l'idée, c'est quand même aussi d'ancrer encore davantage la démocratisation. Et là aussi, c'est pas partie gagnée à cause des oligarchies en place et qui tiennent encore les rênes du pouvoir.
Éric Frécon, interrogé par Manuela à Fidji. Aux Philippines, des responsables religieux ont annoncé ce lundi que le pape François visiterait ce pays en janvier 2015. Le Saint-Père, du reste, l'avait lui-même confirmé il y a quelques jours dans une interview à un quotidien italien, précisant qu'il visiterait également le Sri Lanka au cours de ce même voyage apostolique. D'ici là, au mois d'août, le pape François se sera déjà rendu dans un autre pays d'Asie, la Corée du Sud. Aux Philippines, bastion de la foi catholique sur le continent, il pourra entre autres apporter son soutien aux victimes du typhon meurtrier qui avait frappé le centre centre de l'archipel en novembre 2013, faisant des milliers de victimes. Les détails du voyage ne sont pas encore connus, mais l'archevêque de Manille, le cardinal Louis Taglé, a souligné l'importance qu'accorde le souverain pontife à l'Asie pour l'évangélisation. La population chrétienne en Asie est sans doute faible, en termes numériques a-t-il dit, mais elle est significative. Les Philippines sont le plus grand pays catholique d'Asie, quelque 80% de ses 100 millions d'habitants sont catholiques. À Kinshasa, le pouvoir reproche aux évêques congolais de lui faire un procès d'intention en affichant son opposition à toute révision constitutionnelle. Dans un message publié à l'occasion de leur assemblée plénière, les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo se sont en effet prononcés contre toute modification de l'article 220 qui prévoit la limitation de la durée du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois. Or, le président Joseph Kabila est au pouvoir depuis 2001, il ne peut donc briguer un nouveau mandat. Le gouvernement a aussitôt fustigé la prise de position de l'Église, une prise de position que nous explique Mgr Nicolas Njomo, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
Ce n'est pas un procès de tension. Nous savons que le débat est ouvert, qu'on en parle beaucoup depuis des mois dans la classe politique, dans la population congolaise. On dirait qu'il y a des nuages, la tonnerre qui gronde. Donc c'est une réalité, le débat est ouvert. Tout le monde en parle et les évêques en éveillés de conscience interviennent pour donner leur point de vue. En fait, nous ne parlons que de ce qui est écrit dans notre constitution qui a été adoptée par le peuple congolais. Il s'agit de principes loin de nous, évêques, de pouvoir penser à des personnes. Ce n'est pas une question de personnes, mais c'est une question de principes. Des principes qui peuvent effectivement sauvegarder l'avenir du pays, stabiliser notre pays vers la démocratie, vers l'état de droit, un pays qui se donne des institutions solides, c'est ce pays-là qui peut aller vers le progrès.
À mesure que l'on s'approche des échéances électorales, on a le sentiment qu'il est de plus en plus difficile de dialoguer avec le pouvoir à Kinshasa. Est-ce que vous partagez cette analyse?
De notre côté, déjà en 2012, au lendemain des élections de 2011, les évêques étaient les premiers à contacter tous les états-majors, les principaux états-majors en tout cas de Kinshasa, pour leur parler de la nécessité d'établir un dialogue national pour l'intérêt de notre pays. Et nous avons cessé de le rappeler. Il est très important de maintenir un climat de dialogue de façon à débattre sereinement des questions concernant l'intérêt du pays pour l'avenir de notre pays. Donc, nous continuerons à demander aux uns et aux autres de rester sereins et d'autoriser un débat national serein et un débat qui puisse intéresser tout le monde. Et cela est une garantie pour que nous puissions aller de l'avant. Et nous ne pourrons pas nous fatiguer de travailler à ce que le débat national puisse se maintenir constamment.
Le président de la Conférence épiscopale de RDC, Mgr Nicolas Njomo, interrogé par Olivier Bonnel. En Suisse, le diocèse de Sion a un nouvel évêque. Le pape François a accepté la démission présentée par Mgr Norbert Brunner. Âgé de 72 ans, Mgr Brunner avait demandé en juin dernier au Saint-Père de pouvoir renoncer à sa charge. Le pape François a désigné pour le remplacer le prévôt des chanoines réguliers de la congrégation du Grand Saint-Bernard, Jean-Marie Levé, un Valaisan âgé de 64 ans. En se présentant à la presse en Suisse, Mgr Levé s'est montré serein, soulignant son désir de faire connaître le Christ comme joie du monde. La date de son entrée en fonction n'est pas fixée. Mgr Norbert Brunner a travaillé durant presque toute sa vie de prêtre au service de la direction du diocèse de Sion. Malgré sa longue expérience et sa connaissance des réalités diocésaines, il a estimé qu'il n'avait plus les forces nécessaires pour accomplir les tâches inhérentes au ministère épiscopal d'aujourd'hui et pour relever les défis qui en découlent. Il s'est dit convaincu que la direction du diocèse devait être confié à une force nouvelle. Il aura fallu plus d'un an pour choisir son successeur. Si le nom du chanoine Jean-Marie Levé avait circulé depuis le début de l'année, d'autres candidats avaient été évoqués. C'est la deuxième fois qu'un prévôt du Grand Saint-Bernard devient évêque de Sion, après Nestor Adam, nommé par Pie XII en 1952. Cette congrégation a été fondée au XIe siècle par Saint-Bernard de Menton pour venir en aide aux pèlerins et aux marchands dans la traversée des Alpes. L'histoire et le tourisme se sont emparés s'emparer de son rayonnement dans le monde entier. Aujourd'hui, ses membres s'efforcent de vivre le charisme de l'accueil dans leur lieu de travail et en particulier dans les hospices du Grand Saint-Bernard et du Simplon. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.